Bonsoir à vous tous. Je vous invite à prendre vos Bibles et trouver Apocalypse et le premier chapitre. Notre frère vient de prier que Dieu nous transforme dans l'image de Christ et c'est en contemplant sa gloire, la Bible dit, que nous sommes transformés. C'est ce que nous voulons faire ce soir. Pas, je pense, apprendre quelque chose de nouveau, mais pouvoir ensemble avoir la discipline de contempler avec nos yeux, les yeux de nos cœurs, Jésus tel qu'il est aujourd'hui. Le verset 9, Apocalypse chapitre 1, le verset 9 dit « Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et je fus saisi par l'Esprit, où j'étais dans l'Esprit le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour dominical, le dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » C'est-à-dire, ce qu'il va voir est à partager avec les églises. Lui, il le voit, mais c'est pour le bénéfice des églises. C'est pour notre bénéfice. Donc, sa description de ce qu'il voit est pour nous. Et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et ce qui suit est une description de Jésus-Christ. Et nous avons, il y a quelque temps déjà, regardé plusieurs étapes ou parties de cette description qui devraient nous intéresser parce que c'est la grande et dernière description de Jésus tel qu'il est, tel qu'il reste, jusqu'à ce que nous le voyons encore de nos propres yeux. Et nous avons pris pour guide d'interprétation, c'est-à-dire quand on lit, comment est-ce qu'on doit décrire ces choses? Est-ce que on doit le considérer très littéralement? Et nous avons pris pour guide d'interprétation les considérations suivantes. Je vous les redonne rapidement. D'abord, le fait que le contexte nous dise clairement que nous sommes dans le symbolique. Le contexte nous le dit parce qu'il y a deux éléments qui nous sont interprétés. On va les lire tout à l'heure, mais c'est les étoiles. Il a des étoiles dans sa main. Et il y a des chandeliers, il marche au milieu des chandeliers. Comment comprendre des étoiles, des chandeliers? Bien, regardez le verset 20, au milieu du verset 20. Les sept étoiles sont les anges ou les messagers des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc là, le contexte nous informe qu'il faut interpréter les étoiles et les chandeliers comme des symboles des messagers et des églises. Donc ça nous aide à interpréter cette vision qu'il reçoit et qu'il voit. Et puis nous avons d'autres descriptions de Jésus données dans le même livre qui suggèrent une interprétation symbolique. Je vais simplement vous lire Apocalypse 5-6. Qui dit « Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards » un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, on sait qu'il ne parle pas d'un animal quand il voit un agneau comme immolé. La description est une description de Jésus-Christ. Elle a certainement une part de symbolique. Et pour bien comprendre cette description, un agneau qui était là comme immolé, il faut connaître la vie de Christ ainsi que l'Ancien Testament. Vous avez la même chose au verset 16 du premier chapitre. Deuxième partie, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Est-ce qu'on va vraiment voir une épée littérale qui est enfoncée dans sa bouche? Ou est-ce que c'est du symbolisme? Et puis nous pouvons mentionner troisièmement d'autres descriptions d'amour telles que celles dans le Cantique des Cantiques, où la Sulamite parle de son bien-aimé, elle dit sa tête est de l'or pur. Hein? Bon, je doute qu'elle était vraiment de l'or pur, sa tête, mais c'est une description d'amour qui est symbolique. Donc une description peut être juste tout en utilisant un langage figuré. Donc toujours une description vraie, réelle, juste. Mais si on s'arrête comme Jésus est comme un agneau, ou Jésus a des cheveux très blancs, nous allons perdre la richesse que l'auteur veut certainement nous communiquer. Voilà. Donc, avec cela en tête, regardez la description qu'il donne. C'est au verset 12, Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Ça, c'est les églises, vous rappelez? Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. On a parlé du fait que ça représente le fait qu'il est roi et sacrificateur. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Voici la parole de Dieu, la description de notre Seigneur. Et Dieu veut ainsi façonner notre perception de Jésus-Christ. Que pensons-nous de lui? Comment imaginons-nous Jésus? Et je crois que probablement, c'est certainement le cas pour moi et probablement pour la plupart d'entre nous, nos estimations de Jésus sont beaucoup trop petites. Elles devraient être beaucoup plus grandes que ce qu'elles sont en réalité. Et donc, dans la description d'Apocalypse, à partir du verset 12, il y a cette part de symbolique. Et pour bien le comprendre, il faut connaître vraiment un peu toute sa Bible. Et on a parlé de la vision, du fait que c'est en trois parties. Il y a d'abord le contexte. Ça, c'est les sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, c'est le verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Ça, c'est le contexte. Il dresse un peu le contexte. Et puis, il commence la description en parlant de ses vêtements. Ça, c'est au milieu du verset 12. Il est vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est les vêtements glorieux d'un souverain sacrificateur. Et puis, troisièmement, il passe à la description de sa personne. Et il commence avec le visage. Vous voyez ça? Il dit, c'est verset 14, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux était comme une flamme de feu. » Et la dernière fois, ça fait plus d'un mois et demi, on a parlé de ses cheveux blancs. On a dit que ça représente quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Voilà, sa sagesse qui est sans pareil. Ses cheveux blancs, dans la Bible, parlent de son âge. Il est d'éternité, en fait. Avant qu'Abraham fût, Jésus dit « Je suis ». De sa sagesse aussi. Et aussi, troisièmement, de sa pureté. Le blanc de la laine et le blanc de la neige représentent sa pureté. Et aujourd'hui, donc, cette deuxième chose. Regardez, c'est la fin du verset 14. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Des yeux comme une flamme de feu. Quand on pense à Jésus, on devrait méditer sur le fait que ses yeux sont comme une flamme de feu. Alors, d'où vient cette image? Elle vient de Daniel chapitre 10. Et on peut le regarder rapidement si vous voulez, si vous pouvez le trouver. Sinon, écoutez bien, je vais lire Daniel 10 à partir du verset 4. On a déjà vu cette description en regardant ses vêtements. Daniel 10, verset 4, « Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de quoi ? De lin. » Alors sans doute nous avons ici quelqu'un habillé en vêtements de sacrificateur. Il n'est pas identifié, mais c'est la description. Lévitique 6, 3 disait qu'avant d'offrir un sacrifice, le sacrificateur revêtira sa tunique de lin. Donc on voit dans la Bible quelqu'un vêtu de lin, c'est normalement une référence à un sacrificateur. Il vient dans ce rôle de sacrificateur, mais il a sur les reins une ceinture d'or, d'uphaz. Apocalypse 1, 3, je vous rappelle, disait qu'il était vêtu comme cela et il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Imaginez un peu les maires de France, vous savez, c'est des écharpes qu'ils portent. Je crois que c'est ça l'idée, un symbole de grandeur, de majesté. Et verset 6, Daniel, son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, et notez la description de ses yeux étaient comme quoi ? Des flammes de feu. Voilà. Apocalypse tire directement cette image de Daniel, ou on pourrait dire plutôt que Jean voit la même personne que voit Daniel. Alors revenons en Apocalypse et une remarque importante. Notez le mot « comme », hein, bien dans le texte, en grec aussi. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il ne dit pas que ses yeux étaient une flamme de feu. Il fait une comparaison, une description. Il regarde ses yeux, il les décrit comme ça. C'était comme des flammes de feu. Alors pourquoi décrire les yeux de Christ comme une flamme de feu? Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous amène ou suscite dans votre pensée quand on décrit quelqu'un et ses yeux, parler dans la voiture de quelqu'un, et les yeux duquel changent de couleur? Et ici, dit, les yeux de Christ, pour les décrire, c'est pas qu'ils étaient bleus ou marrons ou noirs ou autre, ils étaient comme des flammes de feu. Qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est des yeux perçants. Voilà. Ok, des yeux qui purifient, tu dis? Très bien. Autres idées? Jugement? Des yeux de jugement. Très bien. Autres idées? Oui?
Deux choses. Il est vivant, parce qu'un cadavre n'a pas des yeux brillants.
Oui? Ok, très bien. Ouais, c'est vrai que souvent, on peut regarder les yeux pour voir si les gens sont intelligents. On voit aussi s'ils sont attentifs. Hein. C'est les yeux comme ça, on se dit, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'intérieur. Oui, je crois qu'il y a deux idées. C'est des idées que vous avez mentionnées déjà, qui sont très communes dans la Bible et même ailleurs, quand on pense à des yeux comme des flammes de feu. Et la première, c'est mes mots à moi, hein, mais c'est une connaissance parfaite et un discernement sans faille. C'est l'idée que Jésus, à cause de son intelligence, de son discernement, perception, il voit tout. Alors, vous pouvez avoir de très bons yeux. Souvent, on a des lunettes. Moi, j'ai souvent des problèmes avec mes yeux. Mais même si vous avez les meilleurs yeux, s'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que vous voyez? À Paris, on n'est pas souvent sans lumière. Mais imaginez, vous êtes quelque part et vraiment, il n'y a pas de lumière. Les yeux peuvent être grands, ouverts. Mais qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi. Rien. Pourquoi? Parce qu'il faut une lumière qui vienne de l'extérieur pour... Les choses peuvent être là, mais si la lumière n'est pas là, moi, je peux pas le percevoir. Mon cerveau ne voit rien voir. Mes yeux ne me servent à rien s'il n'y a pas de lumière. Mais ces yeux produisent la lumière. Hein? Ils n'ont pas besoin qu'on allume la lumière. Il arrive, il entre, il voit tout. C'est comme s'il a lui-même sa propre lumière pour voir. Les ténèbres sont pareilles que le jour pour lui. Il a une perception, une compréhension parfaite et certainement de le voir comme ça. Et il te regarde et ça a dû être comme s'il regarde même à travers de toi et jusque dans ton cœur et tu sais que tout est ouvert et nu devant lui. Une connaissance parfaite, un regard incontournable. Et ça, c'est une des très grandes doctrines de la Bible. Jérémie 20 et verset 12, « L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. » Proverbe 15, verset 11, « L'Éternel connaît le séjour des morts, le lieu des disparus. » Combien plus les cœurs des humains est-il à découvert devant lui? Le psaume 139, Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Mon père aimait bien lire ce passage et chaque fois qu'il le lisait, il mettait les noms des gens. Et je pense à lui maintenant en le lisant. Il lisait ça comme ça. Tu sais quand Wilson s'assied et quand il se lève. Tu pénètres de loin la pensée de Melody. Tu sais quand Guy marche et quand il se couche. Tu pénètres toutes les voix de Jérémie. La parole n'est même pas sur la langue de Myriam que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Hein, je vous encourage à lire et mettre votre nom, ça personnalise la connaissance de Dieu. Ézéchiel 11, verset 5, « Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, « Dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ceux qui vous mentent, à la pensée, je le sais. Je le sais. » Un verset que vous connaissez, j'imagine, Hébreux 4, 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est quoi ? Nu. » Qui aime sortir nu ? On se sent nu, mais devant Dieu, nous sommes nus. Est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça, c'est le pire, hein? Être nu dans certains contextes, peut-être les gens sont prêts à le faire, mais quand ils vont devant le juge, est-ce qu'ils sont prêts à se dénuder devant le juge pour qu'ils voient tout? Luc 16, verset 15, Jésus leur dit, Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. J'ai entendu, c'est le sélectionneur des Bleus. On lui a demandé pourquoi il a choisi les hommes qu'il a choisis, pourquoi il n'a pas choisi d'autres. Et sa réponse était « Je connais des choses que vous ne connaissez pas. » Voilà. Et ça, c'est ce que Dieu dit. Hein? Des choses apparaissent d'une façon à l'homme, mais Dieu voit le cœur. Et c'est pour ça, on peut être très beau devant les hommes, et c'est une abomination devant Dieu. Mais ce n'est pas seulement vrai de Dieu, mais de Jésus spécifiquement. Et là, il y a beaucoup de passages dans les évangiles, comme, je vous lis quelques-uns, comme Jésus connaissait leurs pensées. Matthieu 22, 18, Jésus connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous hypocrite? Marc 2, 8, Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Donc ça, c'est un homme, il marche sur terre et on lui parle et il sait tout de suite ce que tu penses. Luc 6, verset 8, mais Jésus, sachant ce qu'il méditait. Et Jean 2, frappant ce verset, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est-à-dire, il n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour lui dire, oui, c'est un, je t'assure, c'est un bon gars. Non, il n'avait pas besoin. Et même, il y a un des disciples qui vient, il dit, je t'ai déjà vu quand tu étais assis sous l'arbre. L'omniscience de Dieu présuppose son omniprésence. Hein, ces deux idées. L'omniscience, ça veut dire que Dieu quoi? Il sait tout, mais ça présuppose son omniprésence, qui veut dire que Dieu est, il est partout, lui-même. S'il sait, c'est qu'il est là. Cette idée, donc, d'omniscience est centrale. Et je veux vous montrer, prenez vos Bibles et notons comment chaque lettre commence. Cette description est importante parce qu'il va écrire à chaque église et il y a un trait commun à toutes ces lettres. Et je vous encourage plus tard à revenir, peut-être même l'entourer. Apocalypse chapitre 2, il y a sept lettres. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce qui dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Donc on parle de la même personne. Hein. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et puis il dit quoi? Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Il sait toutes ces choses. Regardez la deuxième lettre, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qui dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Voilà, il continue. Regardez la troisième lettre, verset 12, Apocalypse 2, 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce qui dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Verset 13, quoi? Dites-le avec moi. Verset 13. Je sais où tu demeures, et encore, je sais que là est le trône de Satan. Regardez le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a, notant l'image, les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et notons la conclusion tirée de ce fait. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, etc. Regardez chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. » Regardez le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Verset 8, quoi? « Je connais tes œuvres. » Regardez le verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Verset 15, quoi? « Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillon. » Et notons le contraste qui est très frappant ici dans cette lettre. Regardez le verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. » Ça, c'est ce que dit cette église. « Je n'ai besoin de rien et parce que... » C'est frappant ici. Qu'est-ce qu'il dit? « Parce que tu ne quoi ? Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et... » nu. Donc voici une église qui ne connaissait même pas son propre état. Elle se croyait bien riche. Et Jésus dit, non, tu sais même pas comment tu es, mais moi, je sais. Moi, je sais. Et donc le verset 18, je te conseille. Au lieu de se confier à ses propres estimations, il faut suivre le conseil de Jésus. Combien de nos églises, dites chrétiennes, vont s'auto-évaluer comme « Ouais, tout va bien, regarde, on est riche, regarde toute la bénédiction, etc. » Et Jésus sait qu'ils sont pauvres, en fait, spirituellement. Jésus voit tout. Alors, je prie que le Saint-Esprit ramène cette pensée à nos esprits pendant la semaine. C'est en méditant cela que ça va nous changer, que je peux aller nulle part sans la présence de Christ, sans les yeux de Dieu qui me regardent. Alors l'autre idée communiquée par cette image, je vais vous la donner en citant l'Iliade, une épopée de la Grèce antique attribuée à Homère. Je vais vous lire une citation. « Tout à coup, le fils d'Altrée, le puissant Agamemnon, se lève troublé. Son âme est remplie d'une sombre fureur et ses yeux sont semblables à la flamme éclatante. Il lance des terribles regards à Calchas et s'écrie. » Alors voici un texte écrit peut-être 800 ans avant Jésus-Christ. Décrit une personne avec des yeux semblable à la flamme éclatante. Quelle est l'émotion communiquée par cette image? Vous lisez ce paragraphe. Quelle est l'émotion que vous pensez communiquer par cette image? Cette personne se sent comment? En colère, non? Je crois que c'est évident, il est pas content. Il a des yeux comme la flamme éclatante, il lance des terribles regards. C'est loin d'une indifférence lointaine. Il est fixé. Et vous savez que le feu dans l'Écriture est l'expression de la colère divine. Et l'image exprime donc, en plus de sa perspicacité, exprime aussi, je crois, son indignation face au péché que sa vue divine détecte. Et ça, on le retrouve aussi dans la Bible. Regardez avec moi chapitre 19, toujours en Apocalypse. 19. Et on va retrouver ses yeux comme une flamme de feu, mais dans le contexte, quelle est l'émotion, quel est le contexte dans lequel les yeux de Christ sont comme des flammes de feu? Je commence au verset 11, Apocalypse 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait, et encore nous avons maintenant une description de Jésus-Christ, s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux, verset 12, étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, quelle est l'émotion de cet homme assis sur ce cheval avec des yeux comme des flammes de feu? Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sa robe est tachée de sang. C'est une indignation, n'est-ce pas? Et je crois que c'est aussi l'image qu'a dû ressentir même Jean. Vous vous rappelez ce qu'il fait après, quand il le voit? Qu'est-ce qu'il fait? Et il dit pas « Salut mon pote ». Il tombe comme mort devant ses yeux. Une indignation face au péché. Jésus-Christ n'est pas indifférent à nos péchés. Dieu n'est pas le gentil papy dans le ciel qui a que des caresses et des mots tendres. C'est un Dieu avec des yeux comme des flammes de feu. Le feu, ça fait mal. Le feu, ça brûle. Le feu, ça juge. Et pour terminer, je veux voir les deux ensemble. Et pour cela, nous allons revenir à la lettre à l'église de Thyatire. Si vous voulez bien, c'est au chapitre 2, verset 18. Et ici, nous voyons que le regard perçant du juge est spécialement destiné à distinguer ce qu'on pourrait appeler une sainteté simulée, telle que celle de Jézabel, dont il va parler ici. Donc il y a une sainteté simulée, une fausse sainteté, et de l'autre côté, il y a une vraie vie spirituelle authentique. C'est intéressant que le terme grec pour pureté ou sincérité est dérivé du mot pour le rayon du soleil. Et en fait, le mot pour feu en grec est le mot pur, c'est P-U-R en grec. D'où vient le mot français? Pur. Pur à cette idée donc d'être raffiné par le feu. Ses yeux sont donc ses regards qui jugent avec pureté. Alors regardez verset 18, écrit Apocalypse 2, 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Notez encore l'image, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il le dit seulement à cette église, il répète cette image. Elle a une importance pour cette église. Verset 19, je connais tes œuvres, je connais. Donc ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais il reste pas indifférent. Regardez le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Vous voyez? Donc il y a une sainteté feignée ici. Elle se montre comme prophétesse, comme sainte, et elle enseigne et elle séduit mes serviteurs et vous le permettez. Il y a une fausse doctrine dans l'Église, et ils le permettent, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Et notez maintenant que Jésus ne reste pas indifférent. Verset 22, « Voici, je vais là, jeter sur un lit et envoie une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Vous voyez, ses yeux sont pas indifférents. Verset 23. « Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui. » Et notez maintenant ce qu'il va souligner en jugeant cette femme qu'il appelle Jézabel. Qu'est-ce qu'il va démontrer par rapport à lui-même? Il va démontrer que je suis celui qui quoi? Qui sonde les reins et les cœurs. C'est-à-dire qu'il voit les cœurs. Et en le jugeant, il va le démontrer. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Vous voyez la distinction ici que Jésus fait, même entre les différents membres de la même église locale. Parce que le verset 24, il va dire, mais à vous, à tous les autres à Thyatire, c'est-à-dire même dans cette église, pas tout le monde est pareil, hein. Parce qu'il y en a qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, donc à ces autres, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ceux que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. Mais qu'est-ce qu'il va faire quand il vient? Ben, il a dit, je vais juger certains. Donc même dans cette église locale, Dieu juge. Il ne voit pas tout le monde pareil. Il distingue. Et ses yeux pénètrent, sondent les reins et les cœurs, et rend à chacun selon ses œuvres. Ne pensez pas, j'ai un passe au ciel parce que je suis membre de l'église baptiste de Saint-Denis, non. Les yeux de Jésus, donc, sont un regard qui pénètre le cœur et qui juge le péché. Je crois que c'est ces deux idées ensemble que vous avez ici, 1 et 2. Un regard qui pénètre le cœur et qui juge le péché. Et soit il le pardonne, soit il le juge dans sa colère. Il ne restera jamais indifférent, il ne peut jamais ignorer nos péchés. Soit il le pardonne, soit il le juge. Soit il le pardonne, soit il le juge. Mais il ne va pas l'ignorer, il ne va pas rester indifférent. Alors pourquoi tenter de nous cacher? Hein, souvent, on fait comme Adam et Ève, n'est-ce pas? On se cache. Et c'est aussi bête que le petit à 2 ans qui pense qu'en couvrant les yeux, sa maman ne peut pas lui voir. Ne peut pas le voir. Et il pense sincèrement, il dit, moi, je ne peux pas la voir, donc elle ne peut pas me voir. Et on pense la même chose. Jonas, il part, il dit, je vais partir de là. C'est bête. Dieu sait où il va. Pourquoi tenter de nous cacher de Dieu? Pourquoi ignorer qu'il me voit? Pourquoi ne pas venir à lui tel que nous sommes? Et si nous venons dans notre péché, on dit, Seigneur, tu connais tout, donc je ne te cache plus rien. J'ai besoin de ta grâce et ton pardon. Nous allons trouver ses yeux pleins de grâce et plein d'amour. Prions. Ô Seigneur, pardonne-nous le fait de penser dans notre orgueil qu'on peut se cacher de toi. Tu vois tout, tu vois nos motivations, tu vois même en nous ce qu'on ne voit pas nous-mêmes. Nous voulons nous ouvrir comme a fait le psalmiste et dire avec lui, sonde-moi. Connais mon cœur, connais nos pensées et vois en nous nos voies, si des voies de péché, et pardonne-nous nos iniquités et conduis-nous dans le chemin de ta justice. Et Seigneur, veuille bien nous rappeler pendant les jours qui suivent le fait que tes yeux sont sur nous. Que tes yeux pénètrent nos cœurs et que tu vois tout et que tu aimes la justice et que tu hais l'iniquité. Travaille en nous par ta grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse.